Seigneur, merci pour cette première partie de ce culte. Nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons et te célébrer de tout notre cœur et proclamer ta victoire dans nos vies, ta victoire sur l'ennemi aussi. Seigneur, nous voulons te remettre nos enfants qui vont aussi être enseignés, que tu puisses, Seigneur, leur parler dans leur cœur, que tu utilises les moniteurs, les monitrices pour cela, Seigneur, ce que tu as choisi. Qu'ils puissent être qualifiés, Seigneur, pour vraiment transmettre le message de la bonne nouvelle, Seigneur. Merci parce que tu veux rendre ces enfants attentifs afin qu'ils comprennent, malgré leur jeune âge, Seigneur, qu'ils comprennent le message du salut pour eux et ton amour. Maintenant, je te remets aussi, Seigneur, ce temps de prédication. Tu veux aussi faire silence en nous afin que nous puissions, Seigneur, recevoir cet enseignement avec efficacité, que nous puissions être disposés vraiment et attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci pour ton serviteur qui est là. Te demandons, Seigneur, de le diriger vraiment par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien, mais je demande à Sylvain de venir ici. Il se présentera lui-même de manière un peu plus détaillée, je suppose. Mais en tout cas, Sylvain a une grande place dans notre cœur avec Nyaring Tsu parce qu'il a été un de ses profs qui nous a fait souffrir à l'Institut biblique de Nogent, mais voilà, et il est en tout cas docteur en sciences religieuses, hein, si j'ai bien compris,
oui,
voilà, et en même temps, donc, il est professeur, enfin, en tout cas, chargé de cours à l'Institut biblique de Nogent, et voilà, c'est tout ce que je vais dire, hein, là. Pour le reste, je lui laisse le soin de continuer.
Oui, voilà. Merci, Mami, pour cette présentation affectueuse, merci de ne pas nous en vouloir trop aux enseignants à l'Institut si on fait souffrir les étudiants pendant quelques temps, jusqu'à 3 ans, parfois même 4. C'est pour leur bien et pour le bien de l'Église. Voilà. Mais ils nous font souffrir aussi parfois. Voilà. Alors je pense pas beaucoup m'étendre sur la présentation. Il a dit des choses suffisantes. Voilà, je sers à l'Institut biblique de Nogent, effectivement. Une maison que vous devez connaître et qui gagne à être connue en tout cas et qui accueillerait encore beaucoup d'entre vous avec beaucoup de joie pour voilà, la formation au service du Seigneur. Voilà, la famille Yann est aussi là. Nous avons 3 enfants, il faut me croire, sur parole parce qu'ils ne sont pas là ce matin. voilà, ils sont occupés notamment, entre autres, par un groupe de flambeaux ce matin. Merci pour votre accueil et j'aimerais, comme prévu, maintenant nous plonger dans la parole de Dieu. Vous aimez peut-être le sensationnel, l'insolite. Eh bien, pour le coup, le récit biblique que nous allons voir ce matin, méditer dans 2 Rois, au chapitre 6, eh bien, ce récit, à ce moment-là, devrait vous combler. Nous sommes en 2 Rois 6, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord en fait, hein. Cette partie d'Israël qui a résulté de l'éclatement du royaume de Salomon au siècle précédent. Les 2 personnages qui sont des personnages importants dans ce royaume du Nord, donc le royaume des 10 tribus d'Israël, ce sont alors le souverain, le roi, premier personnage important, le roi qui, semble-t-il, se nomme Joram, roi d'Israël, donc vers le milieu du 9e siècle avant Jésus-Christ. Et puis le second personnage important dans le récit que nous allons lire en partie dans 2 Rois 6, c'est un prophète, le prophète Élisée. Élisée, donc successeur d'Élie. Voilà donc les 2 personnages clés. Alors il y en a certainement quand même un troisième, encore un autre protagoniste, donc, qui est le roi du royaume araméen de Damas. Le Syrien, donc Ben-Hadad II, semble-t-il. Voilà donc 2 plus 1, disons 3 protagonistes, personnages clés. Et comme le début du chapitre là, de 2 Rois 6 nous le rapporte, le Seigneur, à ce moment-là, a délivré son prophète. Dans le fil de l'histoire que nous pouvons lire ou relire, voilà, le Seigneur vient de délivrer Élisée de la main des Araméens de Damas. La délivrance du Seigneur, elle a eu lieu dans la ville de Dothan. Les troupes des Araméens, en effet, ont été à ce moment-là frappées de cécité, d'aveuglement. Et puis, les Araméens ont été là emmenés à Samarie, prisonniers, captifs donc. Ils ont été emportés à Samarie, qui était la capitale du royaume d'Israël. Donc, hein. Et là, qu'a fait le prophète Élisée ? Eh bien, il a enjoint le roi d'Israël d'offrir aux soldats ennemis, à ses captifs, de leur offrir un grand repas. Et puis finalement, il a dit au roi, mais laisse-les maintenant partir. Ainsi donc, la troupe des Araméens, des Syriens, a été bien traitée par le prophète et puis le roi d'Israël. Eh bien, le récit que nous allons lire maintenant se situe juste après cet épisode-là de délivrance et de bon traitement finalement des Araméens. Et je vous invite à lire ou à suivre la lecture dans 2 Rois chapitre 6 donc. Et je lirai du verset 24 jusqu'au chapitre 7 verset 2. Donc 2 Rois 6 à partir du verset 24. Je lirai dans la Nouvelle Bible Seconde. Après cela, Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toutes ses troupes et vint assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Le siège fut tel qu'une tête d'âne finit par valoir 80 pièces d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve-nous, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si le seigneur ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit encore « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, que nous le mangions. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Comme il passait sur la muraille, le peuple vit qu'il avait par-dessous un sac sur le corps. » Le roi disait « Que Dieu me fasse ceci et qu'il y ajoute cela si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis chez lui et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens « Vous voyez ce fils de meurtrier, envoie quelqu'un pour me couper la tête. Regardez, quand le messager arrivera, fermez la porte. » Et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître n'est-il pas derrière lui ? Il leur parlait encore que déjà le messager était descendu vers lui. Il disait, « Ce malheur vient du Seigneur, que puis-je encore attendre du Seigneur ?» Élisée dit, « Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Demain, à cette heure-ci, on aura un séa de fleurs de farine pour un sicle et 2 séas d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. » L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, « Certes, le Seigneur fait des fenêtres au ciel, mais cela pourrait-il se produire ?» Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour retresser, pour éduquer dans la justice. Voici cette affirmation connue de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Or, cette parole de l'apôtre, appliquée au récit que nous venons de lire, elle ne nous paraît, comment dire, pas immédiatement vérifiable. La parole de Dieu est utile pour enseigner, redresser, éduquer. Et pourtant, encouragé peut-être d'ailleurs par cette parole de l'apôtre Paul, il faut nous efforcer, frères et sœurs, de saisir ce que le Seigneur veut nous dire par ce récit historique. Certainement, oui, certainement, ce récit aussi est utile pour la foi. Alors, la pointe du récit que nous avons lu, elle se situe en fait juste après, dans les versets qui suivent. Il s'agit en effet de la réalisation de la parole du Seigneur qui avait été donnée, communiquée par Élisée au tout début du chapitre 7. La pointe du récit, en effet, c'est la délivrance. Dieu, en effet, délivrera et de façon spectaculaire, encore une fois, la ville de Samarie cette fois-ci. Et il va offrir, au lieu de la disette, il va offrir à cette ville de la nourriture en abondance. Le chapitre 7, donc, nous relate cet accomplissement de la parole prophétique. Mais quant à nous, attardons-nous ce matin sur les événements qui précèdent ce miracle et qui donc sont relatés dans le récit que nous avons lu. Samarie est assiégée. La capitale d'Israël est assiégée. Or, l'aménagement de cette ville royale était remarquable. C'est ce qu'ont confirmé d'ailleurs des fouilles archéologiques. Samarie était située sur une colline, disons, une colline assez élevée. Elle était, cette ville, entourée aussi de remparts solides. Et Samarie était ainsi très difficile à prendre par les armes. Et donc les Araméens de Damas ont donc choisi, l'assaut, mais bien plutôt le blocus économique pour faire finalement plier la ville. Et de fait, conséquence de ce choix, la ville de Samarie est dans la famine. La famine est intense dans la capitale. Le moindre aliment, nous dit le narrateur, ou le moindre pseudo-aliment, il se vend à un prix exorbitant. C'est ainsi qu'on voit, on lit que la tête d'âne se vend 80 pièces d'argent. Je ne sais pas si vous avez souvent mangé de la tête d'âne, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à manger sur une tête d'animal et sur une tête d'âne en particulier. Et elle se vend à un prix exorbitant, cette tête d'âne. Et n'oublions pas aussi que, selon la loi de Dieu, on ne devait pas manger de l'âne aussi. C'était un animal impur, en effet. Et voilà que dans la famine, dans une famille si grande, on en est réduit à cela. Autre détail aussi donné par le texte, environ 30 centilitres de fiente de pigeon se vendaient 5 pièces d'argent, ce qui correspondrait à plus d'un mois de salaire. Alors la fiente de pigeon, les commentateurs hésitent, mais c'était peut-être le nom populaire pour une variété de pois chiches ou alors d'oignons sauvages, c'est-à-dire une plante qui était normalement peu appréciée, sauf en temps de famine. Voilà donc des détails précis qui nous renseignent sur l'intensité de la famine dans la ville de Samarie. Mais le plus abject, frères et sœurs, le plus abject, ce n'est certainement pas cette nourriture à laquelle les Israélites sont réduits à attacher tant de valeur, non. Le plus abject, le plus sordide, c'est cet accord conclu par deux mères et selon lequel elles s'engagent à manger leur propre fils. Or, une fois l'un des fils mangé, la mère de l'autre le cache, nous dit le texte. Alors pourquoi ? Est-ce pour le sauver ou est-ce plutôt pour pouvoir le manger toute seule ? L'attitude de ces femmes, en fait, fait craindre le pire. Et puis, que dire de la revendication folle de cette femme affamée qui vient, elle, déjà de manger son fils ? Elle revendique l'enfant de l'autre femme pour le manger aussi. La femme qui vient vers Yoram est tellement inconsciente de son péché qu'elle réclame la justice, oui, la justice, et sans la moindre gêne. Elle dit, voilà, fais-moi justice au roi, on a mangé mon fils, et maintenant l'autre, elle ne veut pas me laisser manger son fils. Autrement dit, on a affaire à une femme cannibale qui s'est fait rouler par une autre femme et qui espère obtenir gain de cause auprès du roi à cause de son abomination. Et puis le roi d'Israël, dans toute cette histoire, que fait-il ? Eh bien, au lieu de punir la femme qui l'interpelle ainsi, le roi, il s'en prend à Élisée. Eh oui, il s'en prend au prophète, qui est tenu par le roi comme pour responsable de la situation. Et le narrateur qui nous rapporte tout ça, il s'abstient du reste de commenter directement le drame. Mais le narrateur rapporte à sa façon, la froideur finalement d'un monde d'où, tout sens moral semble banni. Le texte rappelle implicitement aussi un texte qu'on lit un peu plus tôt dans les Écritures, en 1 roi, au chapitre 3. Dans ce chapitre-là, il y a une histoire où on voit deux mères qui avaient été interpellées par Salomon, donc au siècle précédent. Deux mères avaient interpellé Salomon à la suite du décès accidentel d'un enfant. Vous savez, c'est l'épisode où le roi, finalement, va prendre une épée, faire mine de trancher l'enfant survivant, mais il ne le fera pas, et ce sera une manifestation de la grande sagesse du roi Salomon. Donc il y a un écho à ce texte-là, dans le récit que nous allons lire, mais il y a aussi une différence, et c'est pour ça que je l'évoque en passant. À l'époque de Salomon, c'était la préservation de la vie, et c'était aussi la justice qui prévalait. Ça n'est plus le cas désormais. Un siècle plus tard, ce n'est absolument plus le cas. Quelle déchéance! Et que penser de tout cela? Que penser de tout cela? À l'évidence, la faim, la famine, la plus effroyable, vous en conviendrez avec moi, c'est une explication insuffisante pour comprendre l'attitude de ces femmes cannibales. La faim la plus effroyable ne saurait suffire à expliquer ce drame en Samarie. D'autres mères, en effet, ont été affamées, hélas, dans l'histoire. D'autres mères ont été affamées terriblement, sans qu'une telle idée ne leur parvienne jamais à l'esprit. Dire simplement « oui, ça se comprend, parce qu'il y a la famine », c'est une réponse évidemment trop courte, tout à fait insuffisante. Mais sous cet acte barbare d'anthropophagie, il y a en fait un séisme religieux, je crois. Un véritable séisme religieux, comme un mécanisme assez puissant pour que deux interdits notoires ne parviennent pas à enrayer ce séisme. Quels sont ces deux interdits? Le premier, c'est bien sûr l'amour maternel. Un interdit normalement suffisamment puissant pour empêcher toute femme, fût-elle affamée, d'en arriver à une telle extrémité. Et puis, le second interdit, qui aurait dû normalement empêcher un tel acte de se produire, c'est la loi de Moïse, quand même. La loi de Moïse qui condamnait avec une extrême sévérité les pratiques anthropophagiques, très précisément, qui étaient pratiquées par les peuples alentours. Mais évidemment, en Israël, après tant de déchéances, après le règne d'Akab notamment, le père du roi Joram, en Israël, qui se soucie encore de la loi de Moïse? Non seulement les sujets du roi d'Israël s'adonnent en effet au culte des veaux, à Dan, à Bethel, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus depuis longtemps à Jérusalem pour adorer, ce que pourtant le Seigneur avait commandé. Mais en plus, les Israélites ont adopté le culte de Baal, de l'idole. Akab, en effet, le père du roi de l'époque, il s'était marié avec Jézabel. Vous savez, Jézabel qui était une princesse de Sidon en Phénicie. Et alors, une fois devenue reine d'Israël, cette femme, Jézabel, elle avait apporté avec elle le culte de Baal en Israël. Et ce culte avait été la cause, finalement, du désastre, de la déchéance religieuse du pays. Et puis le culte de Moloch aussi, autre divinité étrangère, s'était répandu, semble-t-il. Or ce culte de Moloch, parfois, consistait à sacrifier des enfants. Il s'agissait alors, dans ce culte de Moloch, de tuer son enfant pour apaiser la colère des dieux. En voyant cela, nous rappelant cette réalité du contexte religieux de l'époque en Israël, nous voyons que nous comprenons que c'est l'iniquité, en fait, la perversion spirituelle qui caractérise le royaume d'Israël dont a hérité finalement le roi Joram. Et finalement, nous comprenons mieux l'histoire sordide de ces deux femmes cannibales. Elles ont agi, ou elles n'ont agi, comme elles l'ont fait, que parce que l'idolâtrie avait sapé, complètement détruit, ce qui avait d'humain encore en elle. Dieu lui-même avait averti dans la loi, en Lévitique, chapitre 26. Dieu avait prévenu, il avait dit, « Si vous ne m'écoutez pas, vous mangerez la chair de vos fils. » Lévitique, chapitre 26. Et puis, plus tard, à propos du siège de Jérusalem, plus tard, le Seigneur soulignera encore l'effet du péché de Juda par cette complainte que nous trouvons dans Lamentation de Jérémie au chapitre 4, le Seigneur disant « Ces femmes compatissantes de leurs mains ont fait cuire leurs enfants. Ils leur servent d'aliment dans le désastre de la belle de mon peuple. » Oui, frères et sœurs, les Araméens assiègent Samarie dans le récit de 2 Rois 6. C'est pourtant, les murailles de la ville, on l'a dit, protègent cette ville de ses agresseurs. En revanche, c'est le poison du paganisme qui a déjà eu raison, en fait, de la majorité des habitants. Quel est en effet le plus grand ennemi alors d'Israël? Est-ce que c'est le roi syrien, araméen, le roi Ben-Hadad? Ou bien est-ce que le plus grand ennemi d'Israël, ce ne serait pas l'idolâtrie du peuple? Le plus grand danger, oui, il apparaît bien à l'intérieur du peuple, et non pas à l'extérieur, non pas là où on serait porté à le situer spontanément. Alors, voilà, près de 3 millénaires se sont écoulés depuis l'épisode de cannibalisme qui est relaté en 2 Rois 6. Et pourtant, cette histoire sensationnelle, elle reste d'actualité, je crois. Moloch n'est plus adoré, mais les dieux anthropophages, réfléchissons-y un peu, les dieux anthropophages, à l'influence mortelle pour l'individu et pour la société, ces dieux-là, je crois qu'ils ne manquent pas. Comme le soulignait d'ailleurs un jour le pasteur Richard Gelin en commentant ce texte. Les dieux anthropophages, je pense à l'avortement de convenance, par exemple, que l'on voudrait banaliser aujourd'hui dans la société, mais qui est trop souvent, je crois, un sacrifice au dieu confort. Je pense aussi à l'idéologie du gender, dont on parlera un tout petit peu cet après-midi pour ceux qui seront là, cette idéologie qui est au service du dieu liberté et qui tente à détruire, vous le savez, hein, le schéma de la différenciation sexuelle qui s'impose pourtant à l'humanité. Cette idéologie veut persuader l'individu de devenir son propre maître, son propre dieu, en choisissant finalement sa propre identité sexuelle. Or, de cette idéologie, c'est certainement les enfants privés de repères francs qui risquent bien de faire les frais. Voilà peut-être encore un autre dieu anthropophage dont les plus faibles font les frais. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je relate simplement cet épisode que je trouve ahurissant et pourtant vrai. Il y a quelques années, des parents canadiens ont décidé de cacher aux gens le sexe de leur enfant pour qu'il puisse se déterminer, lui, l'enfant, librement plus tard. On peut imaginer les problèmes qui s'en sont suivis. Et puis, que dire de l'introduction du couple ou du pseudo-couple homosexuel dans le cadre du mariage? Cette légalisation du mariage homosexuel pour sacrifier au dieu égalitarisme, c'est la disparition officielle de la différence symbolique entre l'homme et la femme. Or, ça crée un flou social qui certainement est souvent générateur d'angoisse, en particulier encore pour les plus jeunes. Le professeur Louis Schweitzer disait « Nous risquons l'avenir de nos enfants pour répondre à l'impulsion égalisatrice du moment. » Un dernier exemple, je pense aussi aux dérives de l'actionnariat dans les entreprises. Quand Mammon, le dieu Mammon ou la cupidité conduit quelques-uns à oppresser et à dévorer sans sourciller les plus faibles, les travailleurs d'une entreprise. Ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive. On peut donc réfléchir et comprendre que les dieux anthropophages existent encore, sous des noms nouveaux, mais ils existent encore dans notre société. Or, frères et sœurs, le premier péril, c'est cela qu'il nous faut bien saisir, le premier péril pour la société, il n'est peut-être pas d'ordre militaire ou écologique, mais il consiste, je crois, en des pensées ou en des systèmes de pensée démoniaques. Les principes logiques qui sous-tendent la société sont en effet trop souvent destructeurs de l'humain, même quand on leur prête l'ambition de rendre l'homme heureux ou de l'amener à s'épanouir, à s'accomplir. Ce sont des courants de pensée qui souvent aveuglent ce qu'ils entraînent, au point de les amener à sacrifier sans honte les plus faibles de la société. Il faut bien saisir ici que le rapport de l'homme à son prochain, l'attitude que l'homme a vers son prochain, ce rapport-là, il est comme une parabole finalement du rapport de l'homme à Dieu. L'homme est d'ailleurs créé en image de Dieu. Il y a un lien, un rapport entre l'attitude des hommes entre eux et la posture de l'homme vis-à-vis de Dieu. Le manque de respect de l'homme à l'égard du plus petit de ses frères illustre, je crois, le rapport faussé de l'homme avec son Créateur. Ce n'est pas sans lien. Il y a, au contraire, un lien. Autrement dit, il y a une correspondance, je crois, entre l'égarement religieux de l'homme et le désordre dans les relations interhumaines. La dégradation, en fait, de ces relations, elle est en rapport d'analogie, en rapport de conséquence aussi, avec la dégradation de la relation au Créateur. Pour dire les choses autrement, l'homme devient inhumain en voulant effacer Dieu. Alors oui, le désordre moral que l'on peut déplorer après coup, on en est souvent plus conscient après coup, alors que nous vivons une situation, mais le désordre moral, il découle, il procède de l'impudente négation de Dieu. On dit parfois, vous savez, sans foi ni loi. Sans foi ni loi, en effet. Sans foi, pourrait-on dire plus précisément, donc sans loi. Qui pourrait aujourd'hui contester l'opportunité d'un tel enseignement, finalement, d'une telle parole aujourd'hui ? C'est vrai que les temps anciens ont connu des choses terribles. Ils ont connu, les temps anciens, des athées brutaux, sans scrupules. Mais il est clair que l'athéisme, c'est probable en tout cas, s'est accru, s'est multiplié dans notre société. Eh bien, voilà, est-ce que nous ne tiendrions pas là le secret de la crise morale, de cette crise morale que tout le monde constate et que personne ne dénoue? Alors, frères et sœurs, le rôle de l'Église là-dedans, quel est-il? Le rôle de l'Église, ce n'est ni de se conformer au monde, mais ce n'est pas non plus de sortir du monde. Le rôle de l'Église, je crois, c'est de démasquer, oui, de démasquer par l'étude et la proclamation de l'Évangile, de démasquer les orientations funestes de ce monde, en ne perdant jamais de vue que la racine du mal, elle est d'ordre religieux. L'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, « Enracinez-vous et construisez-vous en Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide. » Colossiens chapitre 2. Oui, que fera l'Église ? Je suis frappé de voir ou d'entendre nos gouvernants de temps en temps, en étant effrayés eux-mêmes d'ailleurs par la perte de repères, nos gouvernants demandent désormais aux églises d'être des autorités morales. Eh bien oui, l'Église devra jouer ce rôle. Nous avons certainement apporté haut les grands principes de la moralité. Cependant, ce qu'il nous faut aussi et à tout prix assimiler et puis alors annoncer, c'est qu'il y a crise morale. Pourquoi ? Il y a crise morale parce que le rapport à Dieu est refusé. Il y a enfer ici-bas parce que Dieu est rejeté, parce qu'il est congédié. Que le Seigneur nous garde de toute langueur, de toute nonchalance, de toute langueur complice de l'air du temps, et qu'il aiguise vraiment, qu'il aiguise notre discernement, pour que, au poison du refus du vrai Dieu, nous sachions proposer l'antidote, la foi en Jésus-Christ. Or pour cela, oui, pour cela, frères et sœurs, la méditation personnelle et la méditation communautaire de la révélation biblique, elle est fondamentale. Comment sinon serions-nous lucides pour voir au-delà de la simple superficie ce qui sous-tend les orientations de notre société ? La méditation biblique est fondamentale, une méditation qui non seulement édifie notre être intérieur, mais qui aussi éprouve, qui juge, qui, démythifie en quelque sorte ce qui se dit ou ce qui accourt dans le monde où nous sommes. Et oui, parce que démasquer les dieux de ce siècle, ce n'est certainement pas quelque chose de peu spirituel, nous l'avons saisi. Et qui plus est, c'est notre devoir. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous préserve de ces forces qui poussent à dévorer les plus humbles et qui nous utilisent comme témoins de la vérité. Amen. prière pour cette prédication. Je vous invite à un petit temps de silence pour méditer à ce message. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur que tu as choisi pour nous partager ce message. Seigneur, nous avons besoin vraiment de ton Esprit Saint pour nous guider dans notre vie, Seigneur, et d'avoir cet esprit aussi de discernement face aux pièges de ce monde, afin, Seigneur, de démasquer aussi, comme l'a dit notre frère, tous les faux dieux qui nous entourent, tous les faux enseignements, Seigneur, que nous pourrions, auxquels nous pourrions être confrontés. Seigneur, garde-nous garde-nous, Seigneur, de toute tentation, de l'attrait de certains enseignements. Seigneur, montre-nous là où est ta volonté. Et comme l'a dit notre frère aussi, que nous puissions, Seigneur, puiser dans ta parole. Méditer, Seigneur, tes saintes écritures, afin d'entretenir notre communion avec toi, afin de discerner, Seigneur, ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, nous allons passer à une cérémonie, entre guillemets, d'une présentation d'enfants. Voilà, alors il ne s'agit pas de grâce, comme tu l'as dit, mais de blanche vite, qui est aussi pleine de grâce, certainement. Alors je vois que les...